des frères lassalliens, reçu ce matin par Léon XIV, présentant les défis de l'éducation de notre époque. Il a encouragé les frères des écoles chrétiennes, nous l'entendrons, dans leur vocation. C'était il y a plus de 130 ans, mais elle n'a jamais peut-être été aussi actuelle. Le 15 mai 1891, en pleine révolution industrielle européenne, l'encyclique Rerum Novarum était partagée. Retour sur ce pilier fondateur de la doctrine de l'Église et du prochain pontificat. À la une de l'actualité internationale, l'horreur qui continue dans la bande de Gaza. Nous entendrons le témoignage d'un médecin et le principal parti politique du Tigré en Éthiopie, interdit par le gouvernement.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Évangéliser en éduquant, éduquer en évangélisant, le souverain pontife a reçu ce matin en audience les frères des écoles chrétiennes au palais apostolique. L'occasion pour Léon XIV d'encourager la famille lassallienne dans sa mission éducative, mais aussi de livrer sa vision de la formation des jeunes, Delphine Allaire.
Absolument, lors de ce troisième discours public de la semaine après les journalistes et les églises orientales, c'est devant les frères des écoles chrétiennes fondées par Saint Jean-Baptiste de la au XVIIe siècle que le pape Augustin s'est exprimé. Sous les fresques renaissance de la salle Clémentine, Léon XIV a salué l'héritage de cette famille religieuse en matière éducative et qui, au fil de son histoire, a toujours abordé les problèmes par un prisme créatif et innovant. Autant d'inspiration pour notre temps et ses défis urgents pour les jeunes. Léon XIV énumère là plusieurs obstacles contemporains au développement d'une bonne éducation, comme l'isolement social et affectif lié à des relations de plus en plus superficielles, le relativisme ambiant ou encore des styles de vie qui ne laissent aucune place à l'écoute, à la réflexion ou au dialogue. Autant de missions aussi, bien sûr, pour les frères des écoles chrétiennes aujourd'hui. Le pape espère donc une multiplication des vocations religieuses lassalliennes qui permettront de susciter chez les jeunes des itinéraires de sainteté joyeux et fructueux. Jeunes d'hier et d'aujourd'hui que Léon XIV qualifie, Marine, de volcan de vie et d'énergie.
Merci beaucoup Delphine Allaire et toutes ces informations sont à retrouver évidemment sur notre site internet. Vous connaissez l'adresse www.vaticannews.va. Je vous le disais en titre, ce 15 mai marque la date de la publication d'une des encycliques les plus célèbres du 19e siècle, celle de Léon XIII, Rerum Novarum, un texte qui explique en partie le choix du pape de s'appeler Léon XIV, comme il le confiait samedi dernier en rencontrant les cardinaux. Rerum Novarum, publié donc le 15 mai 1891, en pleine révolution industrielle en Europe, a considérablement marqué non seulement l'Église, mais aussi l'ensemble de la société, de par sa forte résonance dans les milieux sociaux, économiques, mais aussi politiques. Alors aujourd'hui, comment qualifier cette encyclique? La réponse avec Jean-Marc Tiki, membre associé du Centre d'études en sciences sociales du religieux de l'EHESS.
Je pense qu'on pourrait la qualifier tout d'abord de politique et de sociale, et puis d'innovatrice surtout, puisque finalement, c'est la première fois au 19e siècle que l'Église prend position sur la question de la juste rétribution du travail et de la place du travailleur dans le processus de production. Auparavant, il y avait une réflexion sur le travail, mais elle n'était pas du tout organique et elle était dans une perspective de charité, en quelque sorte, pas de droit ni de justice. Et c'est précisément la grande innovation de Léon XIII d'avoir publié ce texte qui, finalement, sert de fondement à l'ensemble des textes du magistère pontifical, y compris sous Pie XI, et jusqu'à la laborem exercens de Jean-Paul II. Ce qui est clair, c'est qu'il a énormément réfléchi, énormément produit. Il a produit plusieurs dizaines de lettres et d'encycliques. C'est un intellectuel, c'est un homme qui a vraiment réfléchi et qui, en effet, a essayé de trouver un juste point entre la préservation de la tradition et la nécessité de la modernité. Et j'en veux pour preuve son choix de recourir, par exemple, au néotomisme, à cette analyse du monde et à l'aune de la pensée de saint Thomas d'Aquin, avec une forte dimension d'actualité et de souci de prendre en compte le monde tel qu'il est, et pas seulement le monde tel qu'on pense qu'il a été, finalement. C'est vraiment un homme tout à fait tourné vers l'avenir.
L'analyse de Jean-Marc Tiki au micro de Xavier Sartre. Les pourparlers entre les délégations ukrainiennes et russes devraient débuter dans l'après-midi à Istanbul, les premiers pourparlers depuis 2022. Mais les critiques pleuvent déjà des deux côtés à la mi-journée. Volodymyr Zelensky a qualifié de factice la délégation envoyée par la Russie. De fait, elle n'est composée que d'un conseiller de Vladimir Poutine et de deux vice-ministres. Réaction immédiate du Kremlin qui qualifie le président ukrainien de, je cite, « clown et raté ». Sur le terrain en Ukraine, la guerre continue. Moscou a revendiqué ce matin la prise de deux nouvelles localités. Une guerre aux portes de l'Europe qui change la doctrine de la défense européenne. Et l'Allemagne n'y échappe pas. Hier, lors de sa première déclaration générale, le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a promis de doter l'Allemagne de l'armée la plus puissante d'Europe. Affichant son soutien à l'Ukraine, le successeur d'Olaf Scholz a prévenu « Moscou ne se contentera pas d'une victoire sur Kiev ou d'une annexion », a-t-il dit. Le nord de la bande de Gaza, bombardé depuis le début de la journée, au moins 82 personnes sont mortes depuis ce matin. Entre la faim, le froid et la chaleur et le manque de médicaments, mais également les perpétuels bombardements israéliens, les personnels des hôpitaux de la bande de Gaza sont sous pression. Ils continuent de faire leur maximum pour sauver des vies. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mohamed Salah, directeur de l'hôpital Al-Waida dans le nord de la bande de Gaza, à côté du camp de Jabalia, bombardé hier. Il témoignait dans le cadre d'une conférence organisée par Médecins du Monde.
Our team treated 52 injured people inside our emergency department.
Notre équipe a traité 52 personnes blessées au sein de notre service d'urgence après une nouvelle nuit de bombardement. L'une d'entre elles était un bébé de plus ou moins 4 mois. Ses deux jambes ont été amputées à la suite d'un bombardement des forces d'occupation israéliennes. Nous avons également reçu 9 corps. 7 d'entre eux étaient des enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe ici tant que vous n'avez pas vu les visages de ces enfants. Ils ont frappé notre hôpital plus de 18 fois. Nos ambulances, nos médicaments et notre magasin de fournitures médicales ont également été détruits. Nous n'abandonnerons pas. Mais combien de temps encore devrons-nous continuer ainsi? Combien de temps le monde a encore besoin pour entendre et voir ce qu'il se passe ici? Nous ne sommes que des médecins et des infirmières. Nous ne pouvons pas arrêter ce qui se passe. Nous appelons le monde à élever la voix et à se tenir à nos côtés pour protéger les vies et restaurer leur dignité.
Un nouveau Premier ministre au Pérou, le 4e en moins de 3 ans, Eduardo Arana, remplace Gustavo Adrianzen. La prestation de serment du nouveau Premier ministre a eu lieu hier soir, alors que des centaines de commerçants et travailleurs du secteur des transports étaient de nouveau dans les rues de Lima pour protester contre la grave aggravation de la crise sécuritaire au Pérou. Direction maintenant l'Éthiopie, où on assiste à un nouvel acte dans les tensions qui opposent le Front de libération du peuple du Tigré, le principal parti d'opposition au Tigré, face au gouvernement fédéral éthiopien, et cela malgré la fin de la guerre civile. Le parti d'opposition tigréen vient d'être interdit par les autorités d'Addis Abeba. Sur place, Augustine Passigny.
La décision est tombée hier. La Commission électorale nationale éthiopienne a radié le Front de libération du peuple du Tigré pour ne pas avoir respecté ses obligations légales. Le parti majoritaire dans cette région septentrionale d'Éthiopie pourra toutefois demander à être réenregistré en vue des élections prévues en 2026. Le FLPT avait déjà été suspendu pour 3 mois en février pour ne pas avoir organisé son assemblée générale. Le parti est en effet rongé par les divisions internes, sur fond de retard dans la mise en œuvre de l'accord de Pretoria, qui a mis un terme à la guerre contre les troupes fédérales il y a 2 ans et demi. En août 2024, Getachew Reda, alors président de l'administration intérimaire du Tigré, a été exclu du parti. Depuis, ce dernier a été remplacé par Tadesse Werede, qui dirige par ailleurs les forces de défense du Tigré, le bras armé de l'organisation. Les échanges entre le FLPT et Addis Abeba demeurent tendus, les responsables politiques tigréens accusant le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir abandonné le million de réfugiés qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Addis Abeba, Augustine Passilly pour Radio Vatican.
Et avant de se quitter, un mot sur les émissions de gaz à effet de serre en Chine. Elles ont diminué au début de l'année, on l'a appris ce matin. Une baisse rendue possible malgré une consommation en électricité grandissante grâce à l'essor des énergies renouvelables. La Chine est le plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde. Elle vise la neutralité carbone d'ici 2060. Le géant asiatique compte 2 fois plus d'éoliennes et de panneaux solaires que tous les autres pays réunis. Merci de votre écoute. L'information revient en direct de Rome tout à l'heure à 18h. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre site internet vaticannews.va. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.